Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Paul Hatt, conseiller de Paris, élu de la société civile dans le 17e arrondissement de Paris, rattaché au groupe LR. Bonsoir.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Alors Paul Hatt, nous allons parler de l'actualité parisienne, mais d'abord, j'aimerais qu'on évoque la réforme des retraites. Vous qui êtes, je crois, le plus jeune conseiller de Paris, vous êtes directement concerné par cette réforme. Est-ce que c'est une réforme nécessaire? Est-ce qu'elle vous paraît juste, telle qu'elle a été présentée par Elisabeth Borne?
Comme vous le disiez, moi j'ai 29 ans, je vois dans ma génération... On est tous assez quand même inquiets sur l'état des retraites et ce que ça va donner. Donc voilà, la droite de façon générale depuis très longtemps se bat pour reculer l'âge de la retraite. Je pense que ce qui va dans ce sens va plutôt dans le bon sens.
Et donc ça vous paraît normal que la droite vote avec les députés Renaissance sur cette réforme ?
Oui, écoutez, moi je fais partie des gens qui considèrent que c'est normal, ça va quand même dans le sens de ce qu'on défend depuis longtemps. L'espérance de vie augmente, il faut aussi que l'âge de la retraite recule. Alors évidemment, il faut prendre en compte les pénibilités, hein, c'est normal, mais ça va plutôt dans le bon sens et ça va permettre de maintenir l'économie à flot.
Avec tout de même une inquiétude pour les seniors qui risquent d'être au chômage pendant plusieurs années avant l'âge de la retraite.
Oui, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de travail des seniors. Aujourd'hui, quand vous arrivez au chômage, que vous avez plus de 50 ans, même parfois plus de 45 ans, ça devient un peu difficile de trouver du travail. Donc je pense qu'il y a aussi un système qui doit revaloriser les carrières des seniors et permettre aux gens de réintégrer le travail plus facilement.
Alors, les syndicats, Paul Hatt, se mobilisent contre cette réforme. Il y aura une première journée de grève ce jeudi 19 janvier. Les syndicats dans les raffineries devraient bloquer les dépôts d'essence d'abord 24 heures, puis 48 heures et enfin 72 heures. Est-ce que vous êtes inquiet ?
Oui, je suis assez inquiet parce que l'ambiance est quand même déjà très électrique en France, hein. On va de crise en crise, l'ambiance est morose, on a des problèmes dans les transports à Paris notamment. Donc si vous voulez, si on a des problèmes majeurs et qu'on y ajoute une crise des raffineries, ça peut être quand même assez compliqué pour la population française.
Est-ce que cette réforme tombe au bon moment ? C'est tout de même une année où les Français sont préoccupés par l'inflation des prix de l'alimentation et de l'énergie.
Écoutez, moi je me souviens de la réforme des retraites de 2010, hein, j'étais au lycée. Je pense qu'à un moment, il faut quand même commencer à avancer. La réforme des retraites, elle a aussi tenté de commencer en 2018, à l'été 2018, et puis elle n'a pas abouti. Voilà, il y a un moment où il faut que ça commence et le temps presse.
Alors, Paul Hatt, le parc nucléaire français se porte mieux de semaine en semaine puisque de nombreux réacteurs sont remis en marche. C'est plutôt rassurant pour vous, cela éloigne le risque de coupure d'électricité cet hiver, même si on peut se demander si des grèves auront lieu au sein de ces réacteurs nucléaires.
Oui, c'est très rassurant et ça prouve encore une fois que le nucléaire est une réponse à beaucoup des enjeux énergétiques français. Et ça prouve aussi l'intuition, encore une fois, du général de Gaulle sur le sujet. C'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder de plus près, sécuriser. Et ça montre aussi les erreurs de jugement qu'a pu avoir la gauche et le président Hollande, notamment sur la fermeture des usines nucléaires.
Vous avez le sentiment aujourd'hui que sur la question du nucléaire, il y a un consensus aujourd'hui en France. La position des écologistes est minoritaire dans la société française.
Je dirais que le nucléaire a tellement fait ses preuves, a prouvé que la France pouvait avoir une indépendance énergétique grâce au nucléaire. Le nucléaire a toujours été là aussi dans les moments difficiles du pays. C'est une source aussi d'argent pour l'État qui est assez important. Le seul enjeu du nucléaire, qui n'est pas des moindres, c'est l'aspect écologique. Mais beaucoup de chercheurs vous expliquent que le nucléaire est très écologique. Et si vous écoutez même quelqu'un qui n'est pas forcément tendre avec la droite, c'est-à-dire M. Jancovici, vous entendez aussi des choses qui sont plutôt dans la défense de cette énergie. Donc voilà, je pense qu'il y a un certain consensus sur le fait que ça donne à la France une avance comparative et compétitive. Après, forcément, il y a des enjeux écologiques qui ne sont pas neutres.
Alors Paul Hatt, comme après le meurtre de la petite Lola, l'attaque de la Gare du Nord a été commise par un étranger qui était sous le coup d'une obligation à quitter le territoire. Est-ce que la future loi sur l'immigration doit permettre de mieux appliquer ces OQTF ?
Alors moi j'ai une pensée pour les victimes et puis les familles des victimes. Il y a des vidéos qui tournent sur Twitter malheureusement, des attaques, de l'attaque qui a été très choquante. C'est sûr que quand on est parisien, quand on est français et qu'on voit ce genre de choses, on comprend pas en fait que les OQTF ne soient pas réellement exécutés. Vous savez, il y a cette phrase qui dit « une bonne peine et une peine vraiment exécutée ». Je pense qu'il y a un vrai vide juridique, un vrai laxisme qu'il faut vraiment combler par la loi. Il faut que les OQTF soient appliqués immédiatement, le plus rapidement possible, parce que sinon... on ouvre vraiment la voie à l'exaspération des Français et à des votes extrêmes.
Mais il faudra la coopération des pays d'accueil de ces personnes, expulser les pays d'origine de ces personnes.
Oui, mais on arrive à coopérer sur tout un tas de sujets, donc croyez-moi, c'est plus facile pour eux d'accepter quelques OQTF contre des accords qu'on peut avoir un peu généraux. Et aujourd'hui, on met pas assez la pression, en fait. On ne devrait pas laisser le choix. Quand on a quelqu'un qui arrive en France, qui n'est pas français et qui commet des crimes pareils alors qu'il a une obligation de quitter le territoire français, c'est incompréhensible, incompréhensible, y compris dans le monde moderne dans lequel on est. Enfin, c'est-à-dire les déplacements sont tellement faciles et améliorés qu'il faut que ces OQTF soient exécutés.
Alors Brigitte Macron, mais aussi Marine Le Pen, souhaitent le port de l'uniforme à l'école. Paul Hatt, est-ce que cela vous paraît nécessaire pour éviter par exemple le prosélytisme religieux, mais aussi pour éviter d'arborer certaines grandes marques qui peuvent créer un sentiment d'injustice chez les élèves les plus modestes?
Alors ma réponse, si vous voulez, je veux dire ce que j'en pense, c'est... Oui, j'ai envie de vous dire, c'est sympa de remettre l'uniforme à l'école, ça va nous rappeler les années 50 et les années 60. Mais en fait, si vous voulez, les gens, quand ils ont envie de revenir à cette époque-là, c'est pas pour l'uniforme, ils veulent revenir à une forme de rigueur, à une forme de respect des professeurs, à une forme de respect inter-élèves. Et je suis désolé de le faire comprendre à ceux qui nous écoutent, ça n'était pas l'uniforme qui causait ça. C'était une forme de respect dans la société, une forme de civisme qu'il faut réparer. Donc je pense pas que ça passe par l'uniforme, je trouve que c'est vraiment du cosmétique. Et franchement, je vais vous dire, si on remettait l'uniforme et qu'on voit ensuite que la situation est la même, ça risque de créer un certain désespoir. Non, ce qu'il faut changer, c'est le sentiment d'impunité qu'ont beaucoup de jeunes qui dégénèrent. Il faut remettre le professeur au centre de l'éducation, lui redonner du courage, lui redonner, revaloriser sa carrière. Il faut vraiment recréer une société à l'école qui est dans le respect et aussi dans la culture du travail.
Paul Hatt, on va parler de l'actualité parisienne. Vous êtes à l'origine d'une question qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Une question sur les rats. Vous aviez une réponse un peu lunaire d'une élue écologiste qui avait demandé à ce qu'on ne stigmatise pas ces rongeurs. Cette vidéo a peut-être amusé autour de nous, mais il y a un vrai sujet sur la propreté de Paris.
C'est un sujet très grave. Alors évidemment, quand elle m'a fait cette réponse au Conseil de Paris, en plus on n'était pas forcément très nombreux dans l'hémicycle, j'ai aussi rigolé parce que je me suis dit, elle se moque de moi, enfin c'est une blague. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la demande que je faisais, elle était très simple. Je demandais à ce que la ville de Paris, qui est propriétaire des logements sociaux, améliore la dératisation dans ces logements, parce qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus et qui ne peuvent pas, comme dans le privé, faire appel à des sociétés privées efficaces. hors les sociétés de dératisation à laquelle la ville de Paris fait appel, elle les audite pas, elle regarde pas bien ce qu'ils font, elle les recrute sur des contingences purement financières. Et donc j'ai demandé à ce que la dératisation soit améliorée. Si vous voulez, c'était un vœu consensuel au possible. Impossible de voter contre. Et la réponse qui m'a été faite par cette dame qui est élue de la majorité, c'est que son groupe refuserait de voter pour mon vœu parce que je stigmatisais les rats qu'il fallait appeler les surmulots, parce que les rats étaient des auxiliaires du traitement des déchets, mais c'est innommable de dire des choses pareilles. Et c'est ça, mais c'est aussi d'autres choses. Quand on a demandé, quand le maire Geoffroy Boulard du 17e arrondissement a demandé à obtenir le pouvoir de dératisation de façon au moins expérimentale pour tester des nouvelles méthodes. Dès 2018, hein, la mairie de Paris a refusé. C'est-à-dire qu'elle refuse tout ce qu'on fait sur les rats. Pourquoi ? Parce que, un, sa majorité est remplie d'antispécistes, hein, il faut le dire, de gens qui considèrent que les rats sont nos amis, qu'il faut vivre avec. Et puis, deux, parce que ils votent de façon totalement idéologique et ils refusent de permettre à la droite parisienne d'améliorer les choses.
Alors Paul Hatt, la mairie de Paris a décidé d'augmenter la taxe foncière, une décision qui va impacter donc les propriétaires. Est-ce qu'Anne Hidalgo avait un autre choix pour redresser les comptes de la municipalité ?
Bien sûr, il y a 1000 choix. Vous regardez n'importe quelle autre commune, grande commune de France, du monde. Croyez-moi, l'augmentation de la taxe foncière, c'est vraiment le dernier espoir du bateau qui coule, quoi. Donc c'est extrêmement inquiétant parce que il faut se rappeler quand même que la maire de Paris, elle a gonflé les caisses de la ville en demandant l'argent sur plusieurs dizaines d'années aux logements sociaux et donc pour permettre à son budget d'être dans le vert. Aujourd'hui, son budget, malgré tout, coule et donc elle augmente la taxe foncière. C'est-à-dire qu'elle demande aux contribuables parisiens, à ceux qui ont un petit peu de moyens encore, de payer pour ses mauvais choix. Ça, c'est, il faut vraiment que les Parisiens comprennent. À la fin de l'année, quand ils verront sur leur déclaration d'impôt une augmentation de la taxe foncière, c'est parce que Anne Hidalgo, maire de Paris, a fait des mauvais choix. Et ça, c'est très très grave.
Paul Hatt, lors de ses vœux début janvier, Anne Hidalgo a promis de créer un code de la rue parisien d'ici juin prochain. Ceci pour améliorer la cohabitation entre piétons, automobilistes, utilisateurs de trottinettes et cyclistes. Que pensez-vous de cette annonce et que va proposer la droite parisienne pour mettre un peu d'ordre dans la rue et sur les trottoirs ?
Alors franchement, les rats sont nos amis, on va mettre en place un code de la rue, c'est bisounoursland, quoi. Non mais franchement, en fait, en réalité, n'importe quel Parisien un petit peu, avec l'esprit un tout petit peu critique, quand il se promène dans la rue, ce qu'il voit, c'est un bordel monstre qui est lié à une chose, c'est un problème d'aménagement de l'espace public. Les pistes cyclables sont mal conçues, les trottoirs sont trop étroits, les barrières sont mal entretenues, les potelets qui protègent les trottoirs sont cassés pour certains. Donc en fait, il y a une déliquescence de l'espace public qui fait que les gens roulent sur les trottoirs quand ils sont en trottinette parce qu'ils peuvent passer sur les trottoirs. Les gens en vélo en fait ne savent plus où est la piste cyclable, où est le contresens cyclable. On a mis en place des panneaux pour pouvoir griller les feux rouges à Paris quand on est en vélo. À partir de ce moment-là, si vous voulez, un cycliste, il va griller tous les feux rouges. Moi, à sa place, je ferais pareil. On peut pas lui reprocher. On peut pas reprocher aux gens de naviguer à tous azimuts dans une ville qui leur permet. Donc moi, le sujet, c'est pas d'aller former les Parisiens au code de la rue. C'est de former la majorité d'Anne Hidalgo au code de la rue et lui expliquer que si elle veut une rue qui fonctionne bien, c'est son job, elle a été payée, élue pour ça, de reconstruire l'espace public pour que tous les moyens de mobilité fonctionnent. Et je suis désolé, mais Paris a été tellement bien pensé au 19e siècle. À cet égard, on a pensé des grandes rues larges pour pouvoir permettre du trafic entrant, traversant. On a pensé du mobilier urbain réparti de façon homogène, bien construit, parce qu'on savait que c'était une ville dense. Voilà, il faut que la majorité d'Anne Hidalgo soit à la hauteur de la pensée de Paris.
Compte tenu de ce que vous nous dites, Paul Hatt, est-ce que Paris est prête à accueillir les Jeux Olympiques de 2024 ?
On espère, si vous voulez, à Paris, ça se résume pas forcément à la politique municipale actuelle. Ça fait des dizaines d'années que Paris est prête à accueillir les JO. Paris, tout le monde le dit et on le sait, est la plus belle ville du monde. Elle a été pensée, conçue pour accueillir des centaines et des millions de gens par an, même par mois. Ça a été pensé pour les expositions universelles, par des gens qui savaient penser la ville. Et croyez-moi, on a bien de la chance de vivre aujourd'hui sur l'héritage de gens qui ont pensé la ville pour ces expositions aussi. Donc Paris sera prête, mais nous, en tant qu'opposition, c'est notre devoir d'alerter la municipalité, la ville, des dangers auxquels on va faire face, notamment la sécurité et notamment la mobilité, puisque la mobilité entraîne la sécurité. Il faut une ville fluide, une ville propre, une ville belle, parce qu'il faut que pour les dizaines d'années qui viennent, les gens se souviennent de Paris de la meilleure façon qui soit.
Paul Hatt, souhaitez-vous mettre fin au contrat avec les trois opérateurs de trottinettes électriques en free-floating ?
Non, je ne souhaite pas qu'on mette fin à ce contrat. Pourquoi ? Parce que les trottinettes sont utilisées par énormément de gens, y compris les jeunes, pour lesquels c'est parfois le seul moyen de transport. Ça fonctionne très bien. Le seul problème qu'il y a avec les trottinettes, c'est un problème de mélange avec le reste de l'espace public. Et ce n'est pas aux utilisateurs de payer cela. Ce n'est pas aux usagers de ne plus pouvoir se déplacer parce que l'espace public est mal conçu. Dans l'idéal, il faudrait par exemple inventer des arceaux à mettre sur les places de stationnement trottinettes pour que les trottinettes tiennent droit et s'arranger en randonnant. Pourquoi on ne le fait pas ? Parce que la ville n'a plus d'argent, elle n'a même plus les moyens de payer des arceaux vélos. Mais normalement, elle devrait avoir les moyens et de payer des arceaux vélos et d'inventer des arceaux trottinettes. Il y en a dans certaines villes du monde. Elle devrait aussi mettre en place, pourquoi pas, du marquage au sol assez clair dans les déplacements en rue pour les trottinettes. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire sur l'espace public pour permettre aux gens qui font de la trottinette d'être à l'aise. Et je trouve que la trottinette en free-floating est une très bonne idée. Ça pourrait l'être soit par une entreprise privée, soit par la ville elle-même. Elle pourrait très bien avoir son propre système. Mais le fait de tout arrêter, c'est très triste. Et ça prouve en fait qu'on est incapable de gérer l'espace public, tout simplement, quoi.
Dernière question, 78% des franciliens sont préoccupés par le bruit, 65% ont déjà renoncé à un lieu de restauration à cause du bruit. C'est une étude publiée à l'occasion de la semaine du son de l'UNESCO. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour les Parisiens, le bruit ?
Oui, c'est un sujet majeur. On voit beaucoup d'associations qui agissent sur le sujet. Moi qui m'occupe en particulier à la mairie du 17e arrondissement du quartier des Batignolles, c'est un quartier dans lequel les habitants sont assez sensibles puisqu'on a de plus en plus de restaurants, de cafés, de bars qui s'installent le soir. Il y a une vraie politique du bruit à mettre en place parce qu'on a aussi dans la ville des personnes âgées, des personnes sensibles au bruit, des familles qui ont besoin que les enfants dorment. Donc nous, on met en place à la mairie du 17e beaucoup de rencontres avec les commerçants pour essayer de créer une sorte de charte implicite de la relation commerçant-habitant. Ça montre aussi que les Français et les Parisiens, en particulier dans une ville dense, veulent quand même vivre au calme.
Merci Paul Hatt. Je rappelle que vous êtes conseiller de Paris, élu de la société civile dans le 17e arrondissement, rattaché au groupe LR. Bonsoir.
Merci beaucoup.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.